Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 5h30 à Paris, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue si vous nous rejoignez sur la Radio du Monde. On est ensemble pour 30 minutes d'actualité très largement africaine. Le journal d'abord avec la première campagne de vaccination lancée officiellement contre le Mpox. Ça se passe au Rwanda, les premières doses administrées cette semaine, mais ces vaccins encore qui viennent de l'étranger, des dons des uns et des autres, ça n'est plus acceptable, dit l'Africa CDC. La RDC aussi dans ce journal, flambée d'affrontements dits communautaires dans la province de l'Ituri, dans l'est du pays. Aux Comores, Azali Assoumani réapparaît en public. 6 jours après son agression au couteau, un grand pansement sur le front, ça ne l'empêche pas de présider le Conseil des ministres. Encore beaucoup de questions après la mort en cellule de son agresseur suspecté. Des questions, mais surtout des réponses en Guinée. Après l'arrestation de Claude Pivi, l'ex-colonel en cavale arrêté au Libéria, il dort cette nuit dans la prison de Koya, à quelques encablures de la capitale. Confirmation du ministre de la Justice. Et puis le foot, la Ligue des champions en Europe et la victoire des Bretons de Brest sur les Autrichiens de Sturm Graz. Et cela grâce à la très belle performance d'un joueur sénégalais. Restez avec nous, Babacar Diarra nous en dit plus dans 10 minutes. La première campagne de vaccination contre le Mpox commence donc en Afrique. Au Rwanda, précisément, 300 personnes dites à haut risque ont reçu une injection ces derniers jours. Une nécessité selon l'organe de santé de l'Union africaine qui rappelle que l'épidémie n'est pas sous contrôle. Cette variole dite du singe a fait 738 morts sur l'ensemble du continent. Près de 3000 cas supplémentaires détectés rien que la semaine dernière. Et déjà, la même frustration que lors de l'épidémie de Covid-19. Une fois de plus, l'Afrique est tributaire du reste du monde pour recevoir des vaccins. Willy Diallo, les dons affluent, certes, mais le problème de fond persiste.
3 millions de doses venues du Japon, 500 000 des États-Unis, sans oublier les engagements français, espagnol et allemand de 100 000 doses respectives. Des dons nécessaires et frustrants à la fois pour le docteur Jean Kaseya, président d'Africa CDC, l'agence de l'Union africaine pour la santé.
Un pays qui a besoin d'au moins 3 millions de doses, un partenaire lui annonce ne pouvoir lui en donner que 500 000. Comment voulez-vous qu'un pays accepte ces 500 000 doses quand il sait qu'au bout d'un ou deux jours, il aura utilisé ces 500 000 doses et se retrouvera sans autre solution?
Un problème récurrent depuis le début de la crise qui ne pourrait se résoudre sans une production de vaccins directement sur le continent.
On a besoin de 10 millions de doses et nous nous engageons à faire en sorte que l'Afrique reçoive ces 10 millions de doses au minimum. Il y a toujours des manques, mais nous devons affirmer clairement que pour pouvoir combler ces manques, nous avons besoin que ces vaccins commencent à être produits sur le sol africain.
D'ici là, le Rwanda peut déjà se féliciter d'avoir commencé sa campagne de vaccination grâce aux doses données par le Nigeria.
La RDC, voisine du Rwanda, demeure l'épicentre absolu de cette épidémie de Mpox. Les autorités de santé indiquent que la maladie a causé pour la première fois des morts dans la province du Nord Kivu. 2 enfants décédés avant-hier dans cette province de l'Est. La RDC qui concentre, on le rappelle, 96% des cas de la maladie et 97% des décès à l'échelle du continent. L'Est du Congo, toujours la province de l'Ituri cette fois, en proie à de nouvelles violences communautaires. L'armée congolaise et la MONUSCO ont repoussé hier des attaques à proximité de camps de déplacés, attaques attribuées au groupe armé de la CODECO. Cette milice affirme défendre les intérêts de la communauté Lendu en proie à un conflit avec la communauté Emma. Les deux camps avaient pourtant signé en début d'année un accord censé mettre fin à ces violences. Comment, dans ce cas, expliquer ce regain d'attaques armées que l'on observe depuis plusieurs semaines? Alexandra Branjon pose la question au président de l'UNADI, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri.
La première des raisons, c'est que les groupes armés ils délèguent les leurs pour prendre les engagements. Ce ne sont même pas les vrais combattants. Dans la plupart des cas, ce sont des porte-paroles qui viennent signer au nom du groupe, alors que les vrais responsables sont restés par derrière. Et c'est ça un peu ce qui affaiblit les actes d'engagement. Et l'autre élément, il y a plusieurs stations, on sait, de ces mêmes groupes armés. Ils ne suivent même pas le même leader. Chacun peut se sentir leader dans son coin et ne peut pas obtempérer aux décisions de l'un ou de l'autre. Ce qui fait qu'il y a plusieurs fois ces violences ou des actes de cas d'engagement.
Michel Metawani à la tête de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. L'Ituri encore où Jean-Pierre Lacroix est arrivé hier. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Il y a encore des défis, il y a encore beaucoup d'efforts communs. Il le dit à Bounia après un échange avec le gouverneur militaire de cette province. Jean-Pierre Lacroix doit se rendre aujourd'hui dans des camps de déplacés du territoire de Djougou. La visite est terminée en revanche pour la délégation ukrainienne qui se trouvait sur le territoire congolais depuis une petite semaine. Des acteurs politiques, des membres de la société civile ou encore des représentants de survivants de la guerre ouverte par la Russie il y a 2 ans. Ils se sont rendus notamment à l'hôpital de Bukavu ainsi qu'à la fondation Panzi, celle du docteur Denis Mukwege, ancien prix Nobel de la paix. La RDC, le Rwanda et le sort des 6 anciens accusés du TPIR en question. Le sujet est une épine diplomatique depuis 3 ans. 8 Rwandais, à l'époque, tous passés devant la justice internationale après le génocide de 1994, arrivent au Niger après des péripéties diplomatiques et un accord signé avec Niamey. Mais cela fait des années que leurs proches dénoncent leurs conditions de vie et demandent qu'ils soient accueillis dans un autre pays. Cet autre pays pourrait-il être la RDC ? Un document présenté comme officiel circule en ligne et affirme que oui, sauf que Kinshasa dément, sans convaincre tout le monde. Magali Lagrange s'y est plongée.
Les autorités congolaises affirment que le document qui circule sur les réseaux sociaux est un faux. Ce document, intitulé mandat spécial, aurait été délivré par le directeur de cabinet du président congolais. On peut y lire Kali Iliassou Diko, présenté comme ayant la nationalité centrafricaine et chargé d'accomplir les formalités pour obtenir la libre circulation des 6 Rwandais jugés par le TPIR suite au génocide de 1994, certains acquittés, d'autres ayant purgé leur peine et réinstallés à Niamey. Pas de commentaire de Kinshasa, en revanche, sur l'éventualité d'accueillir ou non ces 6 personnes en RDC. Le démenti des autorités congolaises fait réagir Kigali. Le ministre rwandais des Affaires étrangères se dit surpris dans un tweet pour Olivier Ndungire. Le document est authentique. Il serait d'ailleurs parvenu au Rwanda par voie officielle en annexe d'une note verbale du mécanisme résiduel qui a pris la suite du TPIR. Le mécanisme n'a pas pris part à ses développements, mais il en a été informé. Depuis leur arrivée au Niger fin 2021, suite à un accord entre Niamey et la justice internationale, les proches des ressortissants rwandais dénoncent leurs conditions de vie. Ils tentent de leur trouver un autre pays d'accueil, sans succès jusqu'ici.
Magali Lagrange.
RFI à Moroni, 103 FM.
À Moroni, où il est 6h37, le président comorien réapparaît donc en public, sans lever toutes les questions sur son agression. Azali Assoumani a présidé hier le Conseil des ministres avec un large pansement sur le front et des bandages aux mains, cela près d'une semaine après avoir été victime d'une attaque au couteau. Sa présence fait taire les rumeurs sur son état de santé, mais les déclarations officielles sur la mort en cellule de son agresseur suspecté en font apparaître de nouvelles, Abdallah Mzembaba.
Fatima Ahamada, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le président a manqué certaines cérémonies pour raisons médicales, tout en rassurant sur sa santé, avant de revenir sur l'agression dont a été victime le chef de l'État.
Au niveau du gouvernement, on ne peut pas commenter cette affaire. On attend les conclusions de l'enquête du procureur de la République. Certaines informations qui nous sont parvenues assurent que l'agresseur n'était pas dans un état normal. Beaucoup de gens parlent de quelqu'un qui consommait du cannabis. Sa mort complique davantage l'évolution de l'enquête.
Fahmi Saïd Ibrahim El-Masseli, ancien ministre d'État garde des Sceaux, s'est dit satisfait de la santé retrouvée d'Azali Assoumani, mais estime qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre.
Je suis étonné d'entendre nous dire à la fois qu'une enquête a été ouverte par le parquet et qu'elle n'entend pas rentrer dans celle-ci, mais elle s'empresse également à nous dire que ce gendarme décédé était sous l'emprise de produits stupéfiants. Voudrait-elle nous suggérer que ce gendarme ne jouissait pas de sa faculté intellectuelle au moment du passage à l'acte ? On pourrait en déduire cela à l'entendre affirmer ce qu'elle a dit après le conseil.
La porte-parole du gouvernement a fait savoir que la mort d'Ahmed Abdou complique l'enquête et ne permet pas de connaître son mobile ou l'existence de potentiels complices. Abdallah Mzembaba, Moroni, RFI.
Une personne est morte, 6 autres ont été blessés hier matin à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, et cela après l'explosion d'une bombe au marché de Nkwen. L'annonce en a été faite par le préfet de la ville, le préfet qui invite les populations à rester calmes et qui indique que les forces de défense et de sécurité sont, je cite, à pied d'œuvre pour traquer les auteurs de cet attentat. Claude Pivi est bien sur le sol guinéen. L'ex-colonel, condamné par contumace dans le procès du massacre du 28 septembre, se trouve dans la prison de Koya, à une 50aine de kilomètres de Conakry. Confirmation du ministre guinéen de transition de la justice, après que des informations très contradictoires ont été diffusées ces derniers jours. Claude Pivi, arrêté donc en début de semaine au Libéria, avec un complice suspecté et non pas avec son fils. Les détails avec Pierre Firsian.
Les autorités guinéennes ont préféré incarcérer Claude Pivy à la prison de Coya, plus récente et plus excentrée que celle de la capitale guinéenne, d'où il s'était évadé en novembre dernier. Yaya Karibakaba, le ministre guinéen de la Justice.
Cette maison centrale a, par rapport à toutes les maisons centrales de la Guinée aujourd'hui, toutes les commodités conformes aux normes internationales. Il a été reçu dans cette prison, d'abord pour le fait de son état de santé, qui est précaire, il est diabétique.
Arrêté mardi au Libéria, ce colonel, condamné à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, a, selon le ministre, été ramené le même jour en Guinée.
Pas par voie d'extradition, mais par voie de remise de police à police.
Par voie de remise de police à police, explique Yaya Karibakaba. Claude Pivy n'a pas été arrêté avec son fils Verny, mais en compagnie d'un complice, un homme qui précise le ministre guinéen de la Justice.
Il a offert le logement à Claude Pivy, il est resté en contact avec lui, il a assuré tous les besoins de Claude Pivy. Donc du coup, il y a lieu d'investiguer autour de lui pour en savoir plus.
En attendant, ce dernier a également été incarcéré à la prison de Coya. Le fils de Claude Pivy, lui, est toujours recherché.
Pierre Firsion, une fois n'est pas coutume, les hommes priaient de rester un peu en retrait. La suite de ce journal à Madagascar, où les femmes, et exclusivement elles, se racontent et se livrent. Nous sommes au festival VAV. Ça veut dire femme en malgache, tout simplement. Festival plus exposition, d'ailleurs, l'idée c'est d'offrir un espace d'expression artistique complètement libre aux artistes, poétesses, conteuses, peintres, plasticiennes, histoire de remettre autant que possible les femmes au centre de cette création artistique, sujet et pas objet de l'art. Reportage Sarah Teto.
Femmes d'Afrique, enfants du monde, garde tes racines dans tes entrailles.
Ici, des vers qui s'échappent d'un moulin à paroles que le visiteur peut tourner à l'infini. Là, suspendu à un fil, des mots qui semblent s'envoler. La poétesse Nahas y présente une installation artistique inspirée d'expressions qu'elle a choisi de prendre au mot. Cela même qui enferme souvent les femmes dans des carcans.
Il y a des histoires qui ne sont pas très propres. Ce sont des histoires de femmes qu'on essaie d'étouffer au quotidien. Et moi, je les étale là. Manjouf Jafissina, Mamouti Kafsaina, Myotalaf Jansanj, Nis. Les moqueries sont plus violentes, sont plus blessantes que les coups de poing.
Face au moulin à paroles, d'immenses portraits de femmes peints par Joé Arsou, des femmes dont la pose rappelle inévitablement celle des clichés réalisés pour les archives coloniales.
C'était une manière pour les étudier, pour les catégoriser. Et donc je reprends ces postures-là pour raviver comment nous étions il y a 100 ans, mais aussi pour y apporter peut-être un regard plus digne ou plus incarné aussi, et avec ma part de choses à dire.
Le modèle qui pose devant l'artiste peintre signe avec ses mains le mot écho, E-C-H-O. Écho comme la genèse de cette exposition pour porter loin les voix de ces femmes dont l'histoire a été effacée et s'autoriser à prendre la parole quand d'ordinaire, il faudrait d'abord la laisser aux hommes. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Ça veut dire quoi être une femme en Afrique aujourd'hui et par contraste, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un homme? Vaste question sur lesquelles Kpenaï Traoré propose des réponses et des pistes. Bas les pattes, le podcast original de RFI revient pour une deuxième saison. 10 épisodes déjà en ligne sur RFI.fr. Un crochet enfin par l'Europe. Le vieux continent et son football avec la suite hier de la Ligue des Champions. Première journée toujours de cette nouvelle formule. Le Stade Brestois réussit le tout premier match de son histoire dans la compétition. Le club du Finistère dans l'ouest de la France s'impose 2-1 contre les Autrichiens de Sturm Graz. Grâce notamment à Abdallah Sima, un Sénégalais grand et fin. En fait un menhir, Babacar Diarra.
Derrière son allure longiligne, Abdallah Sima dégage une certaine solidité. Son but de la victoire intègre tous les attributs du goléador. Le placement pour intercaler son 1m88 entre le ballon et son défenseur et la spontanéité pour surprendre le gardien d'une reprise en pivot à bout portant. Sima a signé avec brio son entrée comme celle de son nouveau club en Ligue des Champions. L'attaquant de 23 ans n'avait pas encore marqué avec Brest depuis sa signature le 21 août dernier. Une arrivée tardive alors que le mercato brestois tardait à s'emballer. Mais le prêt de Sima par Brighton était un pari important dans la perspective de remplacer le béninois Steve Mounier, meilleur buteur du club sur les 4 dernières années. Toutefois, son profil diffère avec une capacité à évoluer à la fois en pointe ou sur l'aile. Habitué du banc des Lions de la Teranga, Sima avait déjà inscrit 8 buts sur la scène européenne avec le Slavia Prague et les Glasgow Rangers, mais jamais en C1. Son nom s'affiche désormais à la cime de l'élite continentale.
Babacar Diarra est pour la deuxième journée le 1er octobre. Brest se rendra sur la pelouse de Salzbourg. Toute l'actualité des sports. Reviens dans une heure, Antoine Grenier pour le premier journal.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
4h moins le quart, peu ou prou en temps universel. La suite d'Afrique Matin, le programme du prochain quart d'heure. C'est les longs formats de la rédaction. Le dossier Afrique Économie, on va s'intéresser à l'économie nigérienne. Plus d'un an après le coup d'État, après notamment ce fonds de solidarité mis en place par la transition à Niamey. La chronique des matières premières, on va regarder dans le ciel du Brésil, la météo, le climat. Est-ce que la pluie va tomber sur les caféiers? Ça aura un impact très direct sur les cours mondiaux de l'Arabica et du Robusta. Marie-Pierre Olfan avec nous dans 5 minutes. Et puis l'actualité dans les territoires français de l'océan Indien. On retrouvera Benoît Ferrand dans moins d'un quart d'heure. Est-ce que le capitalisme va sauver des cultures ancestrales? La question peut paraître un peu provocante. C'est bien elle pourtant que pose le reportage d'abord de la rédaction africaine. En Côte d'Ivoire, les pleureuses bété monnayent leur service. Elles sont des groupes de femmes dont le rôle est d'accompagner les funérailles par leurs chants et leurs lamentations. La tradition se perpétue souvent de mère en fille, mais elles sont nombreuses aujourd'hui à exiger d'être rétribuées et payées correctement pour leurs prestations. Donc oui, il y a une marchandisation financière de cette culture ancestrale. Mais oui, aussi, c'est peut-être le dernier levier pour que cette culture ne disparaisse pas. Reportage de François Hume Ferkataji.
Moi, je veux perdurer la tradition, sinon ça envoie des disparitions.
Il y a une dizaine d'années, Jérôme Coco a œuvré à reconstituer un groupe de pleureuses bété dans le village de Zeprégué, un village qui fut longtemps connu pour la qualité de ses pleureuses.
Zeprégué est un village de guerriers. Ils ont combattu. On a une grande superficie. Nos parents ont lutté pour ça. Donc nos guerriers qui ont disparu, il faut les pleurer. On les regrette jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, pour maintenir le savoir-faire, pour que chaque fois on se rappelle d'eux. C'est pour ça que je m'y tiens sur
lui. Autour de lui, une dizaine de femmes qui maîtrisent la technique des louanges et subliment les funérailles à travers leurs larmes et leurs lamentations pour accompagner le défunt vers son dernier voyage. Des femmes qui ont appris ces techniques particulières en observant leur mère, leur tante ou leur grand-mère qui ont elles-mêmes reçu cet apprentissage en héritage. Antoinette Zoko.
Maman chante, donc quand elle chante là, je suis à côté d'elle. C'est là-bas que j'ai appris. J'ai appris à chanter dans la bouche de maman.
Tantôt jalousée, tantôt décriée par les religions monothéistes qui considèrent ces chants comme des pratiques démoniaques, les pleureuses bété essuient de nombreuses critiques, mais elles aussi comptent faire perdurer ce patrimoine culturel.
Dans notre église, moi aussi de l'Assemblée de Dieu, notre pasteur est venu me voir que ce que je fais là, c'est pas bon. De laisser, de chanter pour l'église. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit, j'ai compris, mais je continue à chanter à l'église. Je ne veux pas laisser. Peut-être si je meurs là, c'est autre chose. Sinon, tant que je vis là, je vais toujours chanter. Ça m'a engagé.
Paradoxalement, les pleureuses bété sont de plus en plus demandées dans la région. Elles refusent désormais de se déplacer sans fixer un prix pour la prestation, ouvrant la voie à une mercantilisation des pratiques traditionnelles. Indispensable, selon Anne-Marie Boisbré, lead vocale.
Mais ceux qui vont m'appeler, si c'est 2 jours à faire, j'ai dit j'ai 20 000 à prendre. S'ils sont d'accord, ça bouge. Là où on va, là, c'est pour nous payer. Si ce n'est pas le cas, moi je suis là, je ne vais pas.
Les chanteuses de Zeprégué ruminent le sentiment d'avoir été trop souvent utilisées et peu rétribuées pour ses efforts. Aujourd'hui, elles vivent dans le dénuement. Anne-Marie Boisbré ne souhaite pas que sa fille devienne pleureuse à son tour.
On est pleureuse. C'est ce que je ne veux pas que ma fille fait. Moi-même, je suis dedans, là, j'ai eu quoi. Je n'ai rien eu. Donc je ne veux pas qu'elle fasse ça. Il n'y a rien dedans.
Sans soutien financier, la culture musicale des pleureuses bété pourrait disparaître. François Imferkataji, de retour de Zeprégué, RFI.
Il est 3h48 à Zeprégué et à Abidjan. Vous réécoutez ce reportage quand vous le souhaitez sur notre application RFI Pure Radio. Le dossier Afrique Éco dans une minute. Alors ça, les grandes lignes de l'actualité internationale de ce 20 septembre 2024. Et le message vidéo d'abord du chef du Hezbollah. Il a reconnu que son groupe avait reçu un coup sans précédent après les explosions meurtrières de ses différents appareils de transmission au Liban. Hassan Nasrallah annonce l'ouverture d'une enquête interne sur les explosions de beepers et de talkie-walkie qui ont fait 37 morts et près de 3000 blessés ces derniers jours. Reportage à suivre à Beyrouth avec Sophie Guignon dans le prochain journal. Hassan Nasrallah qui promet également, je cite, une terrible riposte à cette attaque spectaculaire attribuée à Israël, qui n'a pas commenté ces deux attaques. Le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bouhabib, a annoncé le dépôt d'une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Hezbollah qui revendique par ailleurs depuis jeudi matin au moins 17 attaques contre 14 positions militaires israéliennes. Malgré la tension exacerbée dans cette région et le risque d'escalade armée, le président américain Joe Biden pense néanmoins faisable une résolution diplomatique du conflit entre Israël et le Hezbollah. Et pour le président français, je cite, « un chemin diplomatique existe ». C'est ce qu'affirme Emmanuel Macron dans un message vidéo. Le dossier de l'économie africaine ce matin sur la résilience de l'État du Niger, plus d'un an après le putsch du général Tiani et les sanctions économiques. Même si la CEDEAO a allégé en février dernier les mesures de rétorsion prises après le 26 juillet, les caisses de Niamey ont souffert et souffrent encore de ces mesures. La junte avait mis en place notamment un fonds de sauvegarde pour la dignité et la résilience d'une nation unie. Un fonds alimenté par des dons et des prélèvements obligatoires. À quel point est-ce que ça a fonctionné? Quelle part ce fonds représente-t-il vraiment? Réponse dans ce dossier de Charlotte Cosset.
Des prélèvements obligatoires ont été mis en place sur le crédit téléphone, les taxis, l'essence, mais ce fonds est également alimenté par des dons financiers et en nature qui vont du pot de yaourt au Coran en passant par les dons de moutons ou d'engrais. Tout cela listé précisément sur le site dédié au fonds. Émilie Lafitau est chercheuse associée à l'IRIS, spécialiste des enjeux macroéconomiques internationaux.
Ils ont réussi à mobiliser 16 milliards de francs CFA. Si on le rapporte aux recettes totales publiques de la loi de finances 2023, ce fonds, il représente 0,03% des recettes totales budgétaires du Niger. Et si on le compare aux appuis budgétaires des partenaires, même si ces dons ont diminué suite notamment aux sanctions, ils représentent moins de 5% comparativement aux appuis budgétaires des partenaires. Donc on voit qu'au niveau des volumes, ça reste un instrument très marginal de mobilisation de recettes publiques au niveau national.
Ce genre de fonds comporte plusieurs avantages, analyse l'économiste international sénégalais Magaï Gaye.
Les procédures d'exécution des dépenses publiques obéissent à des règles qui sont très complexes et ce genre de fonds, par leur souplesse, permettent justement de contourner ces rigidités pour être beaucoup plus efficaces.
Pour lui, il ne s'agit pas de se substituer aux lois de finances votées, mais de proposer quelque chose en plus et de différent.
Mobiliser les Nigériens autour d'un projet commun, donc je crois que le projet est également politique, au-delà de son caractère économique. Je pense pour ma part que c'est également un fonds qui est un acte patriotique fort.
Les sanctions ont conduit à une perte de revenus importante pour le Niger. Pour Émilie Lafitau, si l'État cherche à lever plus de fonds afin de financer sa politique, il dispose de leviers plus efficaces que ce fonds de solidarité.
Au Niger, le taux de pression fiscale, il est à 10% au niveau de l'UEMOA, dispositif dans lequel ils sont toujours intégrés. La norme, elle est à 20%. Donc on voit qu'il y a vraiment un effort à faire au niveau de cette pression fiscale que les autorités du pays arrivent à prélever au niveau de leurs recettes et notamment au niveau des dividendes des multinationales qui génèrent notamment beaucoup de profits. Et donc il me semble que l'enjeu, il est là. Parce qu'ici, il y a une capacité de mobilisation qui est beaucoup plus forte.
Assurer la transparence et la bonne gouvernance du fonds reste primordiale selon les économistes. La question de sa pérennité est également posé.
Charlotte Cosset pour ce dossier Afrique Économie à 4h53 à Niamey. L'actualité des matières premières, c'est celle de la troisième boisson la plus consommée dans le monde, le café en l'occurrence. Café dont le marché tremblote après la dernière récolte de Robusta au Vietnam. Récolte en baisse, en chute même, ce qui veut dire que plus que jamais, les yeux sont rivés vers le Brésil et sa prochaine récolte d'Arabica. Tout le monde veut savoir le temps qu'il va faire dans les semaines qui viennent pour savoir en fait si les caféiers vont recevoir assez d'eau. En attendant, Marie-Pierre Olfan, les cours flirtent avec leur plus haut historique.
Plus que d'habitude, le Brésil a besoin de pluie fin septembre, début octobre. Il en va de la floraison des plants de café et donc de la prochaine récolte. Chaque année, en septembre, les opérateurs ont les yeux rivés sur la météo, mais avec la sécheresse que connaît le pays, les paramètres d'humidité du sol et de l'air sont par endroits dignes d'un climat désertique. Le pays connaît son pire déficit hydrique en 40 ans. La pluie est donc plus que jamais nécessaire. La prochaine récolte brésilienne est déterminante car le pays est le principal producteur d'arabica. Avec le Vietnam, premier fournisseur de Robusta, ils assurent à eux deux 54% de l'approvisionnement mondial en café. Tout accident climatique majeur dans un de ces deux pays a donc un impact sur le marché et sur les prix. Contrairement à ce que certains espéraient, la bonne récolte brésilienne d'arabica cet été n'a pas suffi à détendre les cours Ils ont atteint ce mois-ci leur plus haut niveau depuis 2013. La pression sur l'Arabica est en grande partie alimentée par l'incertitude qui pèse sur le marché du Robusta, dont les cours ont aussi atteint un record historique en septembre. Pour que les prix repartent à la baisse, le marché a besoin de signaux clairs sur les volumes disponibles, explique un négociant. Le problème, c'est que les stocks physiques de café dans les pays consommateurs sont très bas. D'abord, en raison de problèmes logistiques dans les ports brésiliens, le café est expédié avec 2 ou 3 mois de retard. L'autre explication, c'est que stocker coûte aujourd'hui trop cher dans ces pays de destination. Les importateurs comme les industriels n'achètent plus pour garder, mais seulement pour répondre à une demande immédiate. En attendant que soient levées les inquiétudes relatives à la production brésilienne de 2025, la nouvelle récolte vietnamienne cet automne devrait remettre des volumes de Robusta en circulation et faire baisser d'un cran le stress sur le marché du café.
Marie Pirolfant pour l'actualité des matières premières. Deux informations à la une en fin des journaux de La Première. On termine cette demi-heure d'actu dans les territoires français de l'océan Indien avec la traque de braconniers à La Réunion. Mais d'abord un job dating, en bon français un rendez-vous de l'emploi à Mayotte. C'est vous qui nous en parlez, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Plusieurs entreprises, mais aussi pas moins de 9 centres de formation avaient fait le déplacement hier pour aller porter la bonne parole, comme on dit, et offrir des opportunités. Tandu Mohamed est responsable jeunesse à la mairie de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. Elle est au micro de Zaliata Dahalani.
Cet événement s'inscrit dans un parcours. Tout avant, on a fait des recensements avec l'association du village pour identifier des jeunes qui sont en recherche d'emploi ou en recherche de formation. Ensuite, on a organisé des ateliers de CV, de lettres de motivation avec l'accompagnement du CRIJ et de l'association EEJM. Et là, on arrive à l'étape où les jeunes sont en rencontre avec les centres de formation et les entreprises afin de se tester, mais aussi de pouvoir candidater directement à ces centres de formation. C'est des jeunes soit qui sont arrivés jusqu'au niveau bac ou des jeunes qui ont quitté l'école très tôt, donc ils n'ont pas forcément d'orientation précise. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi de les permettre de rencontrer des professionnels et peut-être même de s'identifier à des métiers qui pourront exister dans ces centres de formation ou ces entreprises. Là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils rencontrent les professionnels et qu'ils concrétisent, entre guillemets, un projet d'orientation. On a surtout privilégié des centres de formation qui proposent des formations en alternance, puisque nous pensons que l'alternance, c'est le meilleur moyen d'apprendre un métier et de se former en même temps. Donc là, aujourd'hui, on a 9 centres de formation qui sont là représentés et 4 entreprises qui sont installées dans le village de Vaïbé. C'est un événement qui a invité tous les jeunes du canton 1 à venir. On a mis en place des moyens de transport. Donc là, aujourd'hui, on a des jeunes de Tsunzu 1, Tsunzu 2 et Passamayenti qui sont là également.
Direction maintenant l'autre département de l'océan Indien, l'île de La Réunion. Une nouvelle fois, et ce ne sera sans doute hélas pas la dernière, les équipes du parc national ont procédé hier dans l'est du département à l'éradication d'une espèce invasive trop bien connue. Les braconniers de choux palmistes en l'occurrence, ces cœurs de palmiers très appréciés des gastronomes locaux, six camps installés en pleine nature ont ainsi été démantelés. Ophélie Maraval.
En tout, ce sont 5 mètres cubes de déchets et de matériel de camping qui ont été évacués grâce à plusieurs rotations par hélicoptère. On y retrouve de tout, des boîtes de conserve, des matelas, des bâches, des bouteilles, de quoi tenir une nuit, voire plusieurs jours, le temps de braconner en pleine forêt. Il s'agit d'une opération fastidieuse pour les équipes du parc national et de l'ONF qui a nécessité plusieurs mois de travail pour d'abord repérer les zones suspectes, puis pour ensuite les atteindre. Des lieux souvent difficilement accessibles à pied. Chaque année, l'opération est répétée, de nouveaux d'autres sont réactivés par les braconniers à la recherche de palmistes dans ce secteur de l'Est. Et la seconde problématique, c'est de pouvoir retrouver les contrevenants. Et là, c'est encore plus compliqué, car si des peines de prison existent, elles ne sont que très rarement appliquées. Il faut d'abord trouver l'auteur et très souvent l'intercepter en flagrant délit. En ce qui concerne les camps démantelés aujourd'hui, eh bien rien ne permet d'identifier les auteurs. En ce qui concerne les bean bags ramassés, eh bien ils ont été déposés dans des déchetteries.
Fin de cette édition. Bonne journée, bon week-end.
Bon week-end, effectivement, Benoît Ferrand. C'est la fin aussi de cette première édition africaine. Avec Laurent Hérault à la réalisation, qu'il en soit remercié, Céline Pellarin, rédactrice en chef de l'information. Information africaine qui revient en longueur dans une demi-heure, 4h30 en temps universel. Vous serez avec Sébastien Duhamel. J'en profite pour vous dire ce qui est à la une en ce moment de la page Afrique de RFI.fr, ce dont on parlait dans le journal. L'ancien colonel guinéen Claude Pivi, détenu dans la prison de Coya, confirmation du ministre de la Justice en Guinée. Le journal revient dans 30 secondes.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Entre les patrons des grandes plateformes et les États, c'est l'épreuve de force. TikTok aux États-Unis, X au Brésil ou Telegram en France en sont l'illustration. Quels sont les acteurs en capacité de modeler les activités sur Internet? Nous interrogeons Valère Ndior, chercheur au Centre Géod pour géopolitique de la datasphère.
Les dessous de l'Infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.